Élection départementale dans le canton de Mont-de-Marsan-Nord. Marie-Pierre Gazot, candidate aux côtés du chef de file de Couleurland, Mathieu Hara, élu sortant, candidat à la présidence du territoire, et cible favorite de la majorité départementale. Mathieu Hara dans les Landes, ses rencontres en terre inconnue. Raillé récemment la sénatrice socialiste Monique Lubin. Et quand il est en retard ou au téléphone, rajoute-t-on derrière. Double référence aux supposées absences ou présences parcimonieuses dans notre département du directeur de cabinet de la ministre Geneviève Darrieussecq. L'intéressé préfère en sourire d'un revers de la main.
Ouais, un petit peu. Écoutez, c'est pas très grave. Ça me fait plutôt rire même. Voilà. C'est bien. Ça montre que ma candidature a de l'intérêt. Non, en tout cas plus sérieusement, les critiques qui viennent de la majorité actuelle départementale, elles sont normales, elles sont logiques et c'est le jeu. Moi-même, j'émets quelques avis sur leur bilan et ça c'est tout à fait normal. Venant de l'autre bord, voilà, ça m'amuse plutôt, surtout quand on connaît. Un peu le dessous des cartes, quand ceux qui me reprochent d'être à Paris ne se privaient pas d'y venir pour demander des services personnels pour leur famille, etc. Donc franchement, je crois qu'il faut qu'on se rappelle quel est l'objectif de cette élection. Au mois de juin, on vote pour les élections départementales. On vote pour l'avenir des Landes pour les 7 prochaines années. Il y aura un débat pour l'élection présidentielle. Il sera largement couvert, c'est dans un an. Aujourd'hui, on parle des Landes pour les 7 prochaines années. Ça mérite largement qu'on s'y intéresse et qu'on parle que de ça.
Transition, justement, on parlait de la majorité présidentielle. Avec parmi vos propositions, vous, en tout cas, proposerez, si vous êtes élu, le retour sur les routes départementales à 90 km/h, dont on a oublié que c'était l'élément déclenchant du mouvement des Gilets jaunes, quand même au départ, hein, si on fait toute la genèse.
Ça en faisait partie, effectivement. Ouais. Ça, avec l'augmentation du prix de l'essence, avec la taxe à carbone et un certain nombre de choses qui étaient sous la chante depuis longtemps. Il se trouve que c'est la seule réunion de décision ministérielle à laquelle j'ai assisté personnellement avec le Premier ministre et quelques ministres. Donc je me rappelle très bien de cette décision des 80 km/h. Il a toujours été prévu qu'elle soit mise en place pour 2 ans et qu'ensuite, il y ait la possibilité ou pas de revenir dessus dans les territoires qui le nécessitaient. Dans les Landes, il y a plein d'endroits où les 80 km/h vont rester. Sur les routes de Chalosse, les routes vallonnées, avec des virages, effectivement, on ne va pas revenir aux 90 km/h. Parce que déjà, 80, les gens n'y roulent pas, parce que c'est des routes accidentogènes où on ne peut pas aller à cette vitesse-là. Par contre, on a dans les Landes une autre typologie de voirie, qui sont les grandes lignes droites qui traversent la forêt, que l'on connaît tous, d'est en ouest, d'ouest en est, dans le sens où on va. Et sur ces routes-là, rouler à 80 km/h derrière des camions, franchement, tout le monde se rend compte que ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, c'est pour ces portions-là non accidentogènes et qu'ils permettent d'avoir des grandes lignes droites qu'on proposera de repasser aux 90 km/h.
Mais est-ce que c'est. Alors, si on regarde, j'allais dire l'échiquier, si on regarde la carte par rapport à la région Nouvelle-Aquitaine, on est quand même. Voilà, tous les départements limitrophes. Gironde, Gers, je crois qu'il n'y a que les Hautes-Pyrénées dans le sud-ouest en fait qui repassaient aux 90 km/h. Est-ce que
actuellement en France, je crois qu'il y a un tiers des départements qui sont repassés aux 90 km/h et il y en a une bonne moitié qui y réfléchissent, qui sont en train d'y travailler en fait. Donc on verra dans les années qui viennent qui le fera, qui ne le fera pas, puisque la décision des 80 km/h elle est prise à l'été 2018 si mon mémoire est bonne et avec une clause d'envoyeur au bout de 2 ans. Ouais. Au bout de 2 ans, c'était l'été dernier, donc il est normal qu'on soit dans cette période de réflexion. Voilà. Donc il y a déjà un tiers des départements qui l'ont fait, je pense que beaucoup d'autres y passeront, mais partiellement, on n'est pas obligé de mettre toutes les routes départementales. Il y a des routes qui méritent de rester à 80 km/h, voire même moins. Ouais. Mais il y a effectivement dans les Landes, et je crois que tout le monde peut en convenir, des très grandes lignes droites où être à 80 km/h en plus derrière des camions n'est pas bon pour la sécurité, et puis franchement non. Hein.
Retour aux 90 km/h sur les routes départementales landaises, l'une des mesures phares du programme du leader de Couleurland. Dans ses priorités pour le territoire viennent également l'insertion, l'environnement avec une révision de la gestion des déchets, une plateforme afin d'aider administrativement les agriculteurs locaux, dont les productions permettraient d'alimenter les cantines de 38 collèges du département, dont 4 dans l'agglomération montoise, pour 2 euros le repas au lieu de 4 aujourd'hui. Mais comment fait-on ?
Ce sera un investissement pris par la collectivité, beaucoup de collectivités. Déjà, il faut savoir que dans les cantines, que ce soit les écoles, les collèges ou les lycées, on ne paie pas le vrai prix des repas. Les collectivités prennent toujours une part de ce coût à leur charge. Manger local, c'est un objectif que je crois tout le monde peut partager. Donc bio, filière courte, autant que possible pour tous les aliments qu'on arrivera à trouver. Il y a une démarche qui a été mise en place déjà par le conseil départemental qui fonctionne mais pas assez bien, et donc on va l'améliorer pour qu'on puisse manger landais ou le plus proche possible et bio dans nos cantines dans les prochaines années pour effectivement 2 euros pour tout le monde.
Comment financer de telles mesures ?
Par les budgets du conseil départemental, tout simplement. Le budget du conseil départemental a quelques marges de manœuvre, et puis c'est le rôle des élus que d'arriver à faire des économies et à faire des choix. C'est ce qu'on a fait à Mont-de-Marsan en 2008. On nous a dit que c'était impossible de faire notre projet sans augmenter les impôts ou baisser les subventions aux associations. Ben écoutez, on l'a fait, et on a rendu en 2017 les caisses de la ville avec une capacité de désendettement meilleure que celle qu'on a prise.
Donc, on dit c'est toujours détriment forcément de quelque chose.
Non, il y a des économies d'échelle à faire. Vous savez, quand on récupère une collectivité après 40 ans de gestion, on l'a fait à Mont-de-Marsan après 25 ans de gestion, il y a toujours beaucoup d'économies à faire. Là-dessus, je crois qu'on est à Coulourland un certain nombre d'élus, de maires, de responsables qui ont fait leurs preuves dans les collectivités. Donc je pense qu'on est en capacité de faire cet effort financier qui n'est vraiment pas considérable.
Du bien se nourrir au bien vivre et aussi bien vieillir. Mathieu Arra entend développer les capacités d'accueil pour nos aînés, je cite, dans des structures hors de prix pour les moins fortunés. C'est ce qu'on rétorque en tout cas chez ses adversaires à gauche. Absurde, répond l'intéressé, et malvenu selon lui, je cite également, de la part d'un département classé selon l'INSEE 88e sur 95 en nombre de places d'accueil de personnes âgées. Si l'on ne peut plus construire d'EHPAD, alors il faut trouver une transition entre domicile et EHPAD, justement, tels que l'habitat regroupé ou les résidences autonomie. Fin de citation. Dans ce dernier cas, toutefois, certaines situations interpellent, comme à la résidence Les Girondières à Mont-de-Marsan, ouverte il y a 18 mois, et dont deux tiers des appartements demeurent, selon nos informations, vacants. Marie-Pierre Gazot, adjointe au maire de Mont-de-Marsan, et binôme de Mathieu Arra, nuance. Avec d'autres chiffres.
J'y étais en tant qu'adjointe au maire avec un projet sur l'établissement. D'accord. Et effectivement, voilà, ce qui nous a été rapporté, c'est 53% de taux d'occupation pour le moment.
Vous y êtes allé pour discuter de la trop grande vacance qui est potentielle ?
Non, pas du tout. C'était pour justement proposer à la direction. On a un projet d'accueil, par exemple, dans l'établissement d'un étudiant contre peut-être un logement gratuit, un service que pourrait donner l'étudiant. En fait, ce serait un échange de logements gratuits contre 60 heures d'aide, d'animation, pour créer du lien intergénérationnel. Ouais. Donc, c'est dans ce cadre-là. Et j'en ai profité pour visiter l'établissement, qui est un très bel établissement, mais qui, effectivement, me paraît, même pour des personnes âgées, moins un petit peu surdimensionné. Quand on voit les longueurs de couloirs, on se dit, bon, effectivement, les gens qui sont dans ces établissements sont loin d'être dépendants. Mais ça me paraît être un petit peu... Il me semble qu'un établissement de 50 logements serait plein, et effectivement, peut-être plus à dimension humaine, c'est ce qui m'a un petit peu ce que j'ai évoqué avec la direction.
D'accord, donc on aurait peut-être vu pour l'instant trop grand, et donc il y aurait de la place a priori pour construire d'autres établissements pour accueillir des personnes.
Que si les résidences privées s'ouvrent, il n'y a aucun problème avec ça, c'est pas avec de l'argent public. Et si des gens veulent aller y vivre, on va pas les en empêcher. On leur offre la liberté de choix. Moi, ce que je parle, c'est d'investissement public pour créer de l'habitat regroupé, pour créer de la résidence autonomie, qui se sont là pris en charge par les communes, des communes rurales souvent, pour regrouper leur habitat en centre-bourg, près des commerces, près des services. C'est pas la même chose que des établissements privés qui proposent de l'hébergement et du service, ce qui est très bien aussi pour les gens qui y vivent, mais on ne parle pas de la même chose.
Si vous êtes élu Mathieu Arra, président du département, comment allez-vous gérer envisagerez-vous de gérer votre agenda ?
Je serai président du conseil départemental à temps plein. Vous savez, je suis revenu à temps plein vivre à Mont-de-Marsan depuis le mois de septembre, et ma femme et mes enfants y sont, et je vivrai à 100% à Mont-de-Marsan, c'est très clair. Vous savez, c'est quand même... assez surprenant. Je vis à Mont-de-Marsan, où je me suis installé depuis 2008. J'y vis toujours. Nous venons d'y acheter une maison. Je n'ai pas pour projet d'aller vivre à Biarritz, par exemple. Voilà, moi, mon projet de vie, il est ici. Personne. Pendant 3 ans, j'ai suivi Geneviève Darrieussecq au ministère des Armées. Je faisais des allers-retours ici, et je vais le démontrer avec Geneviève, apporter pour le territoire plus qu'il n'a jamais eu en termes d'aide de l'État, en termes d'équipement, en termes de projet. Si on a aujourd'hui un campus connecté, c'est grâce à l'action qu'on a eue au ministère. Si on a aujourd'hui une scène nationale pour nos équipements culturels, le Théâtre de Gascogne, c'est grâce à ce qu'on a fait au niveau national. Si on a eu plus d'un million d'euros de subventions pour l'Auberge Andaise, pour la Salle Barbe d'Or, un autre million d'euros, encore un million d'euros pour le stade Guy Boniface, si on a une maison d'accueil temporaire qui est en train de se construire, c'est parce que nous avons débloquer tous ces projets-là à Paris. On sait très bien que pour faire avancer un territoire, il faut avoir des relais. Henri Emmanuelli, quand il était président du département, se servait au quotidien de ses relais à Paris pour faire avancer les Landes. Je crois que c'est tout à fait normal, et on avait le maillot jaune et noir sous notre veste tous les jours. Nous n'avons jamais fréquenté les salons parisiens comme je l'entends. On était là pour bosser pour notre territoire. Quand on négocie un étalement sur 20 ans au lieu de 1 an du paiement de la LGV, on le fait parce que nous avons les bons relais. Ces relais-là, je les ai, je les garderai. Mais je souhaite, et quoi qu'il en soit, que je sois élu ou pas, vivre à Mont-de-Marsan à 100%.
Mathieu Arat, tête de liste de Couleur Lande, élu sortant aux côtés de Marie-Pierre Gazot, son binôme dans le canton de Mont-de-Marsan Nord pour le scrutin départemental du 20 juin prochain, qui aura donc pour adversaire, pour rappel, Frédéric Dutin et Salima Sansou pour la majorité départementale, Marie-Christine Bourdieu et Gilles Chauvin pour le Marsan Ma Vraie Nature, soutenu par les Républicains, Laure Cadino et Nabil Edard pour les Landes en commun, Michel Dufay et René Higounet pour le Rassemblement National et Philippe Prieto et Daniel Proux, droite indépendance nationale. Autrement dit, DINA, soutien à la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2022.
MDM. On n'a pas inventé la radio, on l'a juste améliorée. MDM.